おかしい、おかしい、おかしい。
C'est l'heure de l'émission de l'Ogre Congolais avec Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Bonsoir, 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comment le gouvernement entend améliorer la situation des droits de l'homme en RDC? C'est le sujet principal de cette émission. Nous recevons comme invité Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement central. Maître Joseph Mukendi Wamulumba, avocat près la Cour suprême de justice, secrétaire exécutif de l'Institut des droits de l'homme des barreaux congolais et membre du comité exécutif de l'UDPS. Maître Jean-Claude Katende, avocat au barreau de Lubumbashi et président de l'Association africaine des droits de l'homme, ASADO. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Voilà, Maître Lambert Mende, Monsieur le Ministre, vous êtes là?
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, Maître Mukendi. J'espère que j'ai donné tout le nom parce que je suis avec votre nom. Hein.
Oui,
j'ai pas oublié le prénom.
Vous avez oublié, c'est Jean-Joseph Mukendi Wamulumba.
Voilà, je l'ai tenté. J'avais peur de ça. Bonsoir, Maître Jean-Claude Katende.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes tous là, mais avant d'entamer notre sujet principal consacré au 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ouvrons le débat pour quelques minutes. Dans les dernières nouvelles de Nairobi, vous savez que le gouvernement congolais et le CNDP de Laurent Kunda sont depuis lundi dernier en concertation dans la capitale kényane. À ce troisième jour, les deux parties devraient commencer par adopter les termes de référence sur lesquels les prochaines discussions devraient se baser. Les travaux se poursuivent à huis clos, comme le dit notre envoyé spécial à Nairobi, Nazaire Koko Zouin, tout à l'heure par Pierrot et la Mégé.
Disons d'abord, Pierrot, que les deux parties, c'est-à-dire gouvernement et CNDP, discutent sur l'état de négociation de fonds qui doivent se tenir entre les deux parties. Au troisième jour, il était question, selon une source proche de la délégation gouvernementale, d'adopter les termes de référence du cadre de concertation. Parce qu'hier, les deux parties s'étaient convenues sur ces termes de référence, mais ne les avaient pas adoptés. Le CNDP avait demandé un temps de réflexion supplémentaire. Et ce matin, c'est sur l'adoption des termes de référence que les travaux devaient reprendre. Pour l'instant, rien ne chiffre donc de cette discussion. Les journalistes sont écartés et donc on ne connaît rien. Et jusqu'à il y a peu, les délégations étaient encore au quartier général des Nations Unies.
Nazaire, peut-on avoir une idée des différentes options qui ont été levées par les délégués de chaque parti à ces négociations?
Oui, en fait, s'il faut parler des options, d'abord, il faut relever que le gouvernement a parlé du cadre à Mali comme un cadre de concertation, de négociation pour amener la paix dans le Nord. Le CPC n'en voulait pas. Alors, maintenant, au fil des négociations, il s'est fait que le consensus est plus ou moins dégagé sur les termes de référence que je vais devoir évoquer. Premièrement, les négociations futures devront se dérouler en s'inspirant aussi ou en gardant à l'œil la constitution de la RDC. Autre chose, les actes d'engagement antérieurs, dont les actes d'engagement des Goma ainsi que les différentes résolutions des Nations Unies, sans oublier le communiqué de Nairobi sur le désarmement des forces militaires à l'est de la RDC. Autre chose, c'était le mandat de la facilitation qui a été reconnu selon les termes du communiqué de la conférence des chefs d'État du 7 novembre dernier à Nairobi. C'est communiqué par les facilitations et non des négociations entre CNDP et le gouvernement. Donc, il s'agira plus d'un simple civil pour réqualifier les choses en principe selon les termes même de ces communiqués. Donc, pour l'instant, les Maïmaïs qui ont signifié avoir été invités par la facilitation craignent justement que le gouvernement négocie un autre accord entre lui et donc avec et les CNDP et les démarches sont. Alors, ils ont remis hier une note à la facilitation lui demandant de changer sa méthode, c'est-à-dire d'inclure tous les groupes armés parce qu'ils craignent que des solutions trouvées entre le gouvernement et les CNDP ne soient pas applicables sur terrain et soit à l'origine des crises futures.
Alors, on va prendre juste un commentaire à chacun de nos invités pour boucler hein, ce dossier, juste de quelques 5 minutes. On commence par vous, Maître Jean-Joseph Mukindi.
Oui, je pense que il est important que les partis parlent, parce que dans un pays, on doit se parler. Et il est bon aussi que le gouvernement parle avec des personnes qui ne sont pas en bonne intelligence avec elles. Et c'est la raison pour laquelle nous appuyons, non seulement en tant qu'activistes de droits de l'homme, mais même aussi en tant que membre de l'UDPS, nous appuyons ce principe de ce dialogue direct. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait la sincérité dans cette démarche et que ça ne soit pas un dialogue de plus ou en tout cas pas un dialogue de trop.
Merci beaucoup. Commentaire de Maître Jean-Claude Katende.
Je vous remercie pour m'avoir accordé la parole. Je dois tout simplement rappeler par rapport à cette question que notre organisation Azadou avait tenu une conférence de presse le 31 octobre de cette année. Et lors de cette conférence de presse, l'une des questions qui avait été analysée concernait la situation à l'Est. Et nous avions demandé que les partis puissent se retrouver pour dialoguer.
Donc c'est une bonne chose.
Donc l'opportunité qui s'est offerte maintenant par les négociations qui se passent à Nairobi, c'est quelque chose que l'Azadou soutient totalement, parce que nous croyons que c'est une occasion qui va permettre à ce que une solution soit trouvée pour que les violations des droits de l'homme qui se commettent à l'Est prennent fin.
Alors, monsieur le ministre Lambert Mende, on peut dire, peut-être qu'on peut saluer, n'est-ce pas, une concession de la part du gouvernement central, n'est-ce pas?
Oui, je ne m'éloignerai pas beaucoup de mes deux prédécesseurs. Je pense que c'est une bonne chose, sauf que ce dialogue ne peut porter des fruits que si et seulement si il s'est déroulé de manière inclusive. Et donc, je soutiens le point de vue des compatriotes Maïmaï qui estiment qu'on ne peut pas les laisser dehors. Et je voudrais les rassurer, jamais le gouvernement n'a eu l'intention, jusqu'à maintenant, de permettre à qui que ce soit d'exclure un groupe armé congolais dans la recherche de solutions. Nous estimons que si le CNDP revient au programme Amani, cela veut dire que nous allons pouvoir impliquer tout le monde, puisqu'il y a des solutions durables que inclusives.
Voilà ce que je peux dire. Ouais, j'ai beaucoup de questions là-dessus, mais je les garde sûrement demain. J'espère qu'on va revenir sur Nairobi. Mais ça nous permet de boucler ce dossier avant de passer au sujet principal de ce dialogue congolais.
Dialogue congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comment le gouvernement entend améliorer la situation des droits de l'homme en RDC. Célébration, c'était donc aujourd'hui de ce 60e anniversaire. Plusieurs manifestations ont été organisées à travers le pays. À Kinshasa, la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères a abrité la manifestation officielle organisée par le ministère des Droits humains et le Bureau des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. À Mbandaka, la situation des détenus n'est pas bonne à la prison centrale. C'est une illustration. Les pensionnaires de cette prison se disent victimes de violations de certains de leurs droits. Par ailleurs, le bâtiment de la prison se trouve dans un état de délabrement très avancé. Reportage Jean-Michel Liboula-Mopolo.
Construite en 1924, la prison centrale de Mbandaka ressemble aujourd'hui à une forme où se trouvent les détails. Une grande partie de l'enclos qui ceinturait les bâtiments s'est écroulée voici plusieurs années. Le reste de la clôture est dangereusement lézardé par de graves fissures prêtes à s'écrouler. À l'intérieur, il n'existe plus de quartier. Les pensionnaires, hommes, femmes, adultes, enfants, militaires et civils, tous vivent dans une promiscuité inacceptable. Les condamnés et détenus passent la nuit allongés à même le sol, sans matelas ni couverture, dans des cellules exiguës. La direction de la prison affirme avoir enterré 4 prisonniers au mois d'août dernier suite aux mauvaises conditions d'hébergement. Côté restauration, la direction pénitentiaire déclare ne plus recevoir de fonds de ménage pour nourrir ses pensionnaires. Les prisonniers affirment qu'ils nourrissent chacun comme ils peuvent, notamment en faisant des maraudages. Ce n'est que tout récemment, indique Thomas Boka, directeur adjoint de la prison centrale, que la maison d'arrêt a bénéficié d'un don en vivres offert par le gouvernement provincial de l'Équateur en faveur de 102 personnes parmi les lesquels une femme et 17 malades. Notons aussi plus de 70 dortoirs qui composaient cette prison, seulement une vingtaine ont été réaménagés grâce au financement du Royaume de Belgique ainsi que du gouvernement provincial de l'Équateur. Mbandaka, Jean-Michel Iboula Mopolo, Radio Okapi.
Évidemment, c'est l'un des reportages de la rédaction de Radio Okapi à travers différentes prisons du pays. Maître Mukendi Jean-Joseph, qu'est-ce que ça vous inspire ce reportage dans cette prison de l'Équateur?
Eh bien, ce reportage, je pense que si vous demandez à n'importe quel reporter dans n'importe quel coin de la République, à part peut-être le centre pénitentiaire de Makala, on vous fera, on dirait la même chose. Vous interrogeriez le reporter qui est à Bunia, il vous dira exactement la même chose. En fait, cela dénote de la situation difficile des droits de l'homme, des droits des personnes détenues. Et je pense qu'en cette journée, on devrait se pencher de façon assez particulière sur ce problème, d'autant plus que nous venons de vivre il y a deux jours la rentrée judiciaire, et au moment où nous parlons, les magistrats de la République sont en Conseil supérieur de la magistrature, qui est une grande première. Mais le grand problème, c'est que la justice, ce ne sont pas des magistrats, ce ne sont pas des personnes. C'est cet exercice qui consiste à donner à la population une justice qui garantisse la démocratie. Or, je pense qu'en ce 60e anniversaire des droits de l'homme, nous, de la déclaration des droits de l'homme, nous devons lancer un cri. Parce que justement, la justice tourne mal, les droits, l'arrestation se fait de façon arbitraire, les règles du procès équitable ne sont pas du tout respectées, et les personnes détenues le sont dans des conditions telles que il n'est pas du tout faux de dire que la plupart de nos prisons, le reporter ne l'a pas dit, mais la plupart des prisons sont des mouroirs, et une personne qui est en détention pendant très longtemps, si sa famille ne le soutient pas, eh bien cette personne est condamnée à mort. Même si nous sommes pour l'abolition de la peine capitale, mais l'arrestation au Congo équivaut à une condamnation à la peine capitale.
Monsieur le ministre Lambert Mende, vous qui êtes porte-parole du gouvernement, que pensez-vous justement de ce que vient de dire Maître Mukendi, que les prisons congolaises sont devenues pratiquement des mouroirs?
Il faudrait être malhonnête pour ne pas reconnaître les difficultés que traversent les services pénitentiaires et même l'appareil judiciaire d'une manière générale. Mais je préfère voir dans cette situation déplorable plutôt le fruit d'un dysfonctionnement de l'État dont nous avons hérité, nous savons où nous venons, et nous essayons d'améliorer. Nous ne pensons pas qu'en un ou deux ans, il aurait été possible d'inverser une tendance qui a été plus ou moins constante au cours des 40 dernières années. Donc c'est plus le résultat d'un dysfonctionnement que la politique délibérée du gouvernement de faire souffrir des gens parce qu'ils sont en prison. Et je pense que même si on fait une incursion sur les services de santé, sur les écoles, c'est le même constat. C'est pourquoi notre président a placé son mandat sous le signe de la reconstruction avec les cinq chantiers dont on parle souvent avec des petits airs ironiques, mais dont le peuple congolais ne peut pas se passer. Donc c'est vrai qu'il y a un problème infrastructurel, c'est vrai qu'il y a un problème dysfonctionnel, mais ce n'est pas la volonté du gouvernement. Et en tout état de cause, il y a eu des initiatives importantes des différents ministres de la justice qui se sont succédés ces dernières années, d'essayer de vider le monde carcéral, de voir un peu tous ces prisonniers qui sont là sans que le droit ne permette qu'ils y soient, qu'ils puissent sortir, et j'ajouterai que nous avons un système de séparation des pouvoirs dans notre pays et que le gouvernement peut difficilement répondre de la responsabilité qui incombe au pouvoir judiciaire. Je pense que notre président a interpellé le pouvoir judiciaire il y a un an exactement, lors de son discours sur l'état de la nation de l'année dernière. Nous estimons qu'il appartient à tout le monde, les citoyens, les ONG, les avocats, le Parlement, aussi bien que le gouvernement, de faire en sorte que la justice puisse se faire sans que les droits des citoyens qu'elle est censée garantir ne soient violés par son fait.
Mais le pouvoir, c'est d'abord vous qui le détenez, hein, monsieur le ministre.
Nous sommes au pouvoir exécutif, nous n'assumons pas le pouvoir judiciaire.
Oui, qu'est-ce que vous en pensez, maître Jean-Claude Katende, vous qui êtes président de la ZADO, parce que monsieur le ministre, Lambert Mende dit que tout ce qui se passe par rapport aux droits des détenus, c'est plutôt un problème de dysfonctionnement du gouvernement suite à son héritage lourd, la volonté politique y est.
Je pense que je peux être d'accord avec monsieur le ministre sur un certain nombre de points, dont notamment celui relatif au dysfonctionnement, mais nous aurions souhaité que malgré le fait que c'est une situation que le gouvernement actuel hérite des autres gouvernements, que le gouvernement actuel prenne des initiatives qui puissent démontrer qu'il veut améliorer la situation des détenus dans la prison. Parce que le gouvernement actuel, je pense que le ministre Mende y est, le gouvernement passé y était aussi, mais nous constatons que la situation ne s'améliore pas. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on retrouve dans la prison même des personnes qui ne devaient pas être en prison et qui vivent dans de mauvaises conditions, des fois qui sont privées de soins de santé. Et nous avons, nous, fait le monitoring de toutes les violations des droits de l'homme qui se commettent en prison et on a constaté que de ce côté-là, il y a beaucoup de choses à faire et nous souhaitons vraiment qu'il y ait des actions concrètes de la part du gouvernement.
Et par rapport au monitoring, je veux juste rappeler que le prédécesseur de l'actuel ministre des Droits humains, on l'a vu sur les images, il a eu à libérer l'œuf de chèvre qui était arrêté hein, dans des prisons.
Oui, mais c'est grave. C'est grave et nous pensons qu'à cette occasion où nous célébrons le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notre gouvernement, ensemble avec les autres institutions, dont les ONG, nous devons nous asseoir pour évaluer l'état de son application dans notre pays et principalement en ce qui concerne nos prisons.
Alors, maître Jean-Joseph Mukendi, puisque le ministre parle, lui, d'un problème de dysfonctionnement et que la volonté y est, mais je reviens à la manifestation hein, de célébration du 60e anniversaire qui s'est déroulée à Kinshasa. En marge de cette cérémonie, d'après nos reporters Paul Matendo et Karine Kaja, un groupe d'une cinquantaine de femmes et enfants, des officiers des FARDC détenus, ont exigé l'accélération dans l'instruction des dossiers des détenus. Parmi les militaires arrêtés, les femmes parlent notamment des originaires de l'Équateur. Est-ce que là aussi, il faut parler d'un problème de dysfonctionnement ou c'est un problème de volonté politique?
Donc, je crois que le ministre a très bien parlé quand il a considéré que le problème dure depuis longtemps. Effectivement, il a raison, c'est un problème qui date de longtemps. On ne peut pas l'attribuer à l'actuel gouvernement. Mais il y a une responsabilité lorsqu'on est en place. Aujourd'hui, par exemple, le meilleur exercice n'aurait pas été d'aller au salon du ministère des Affaires étrangères où tout on allait faire de beaux discours.
Ça aurait été quoi?
J'aurais voulu, par exemple, une équipe aille visiter, par exemple, le cachot de la brigade judiciaire, pas très loin de là, et vous aurez trouvé des personnes là-bas, et moi je sais de quoi je parle, puisque ce sont des milieux que je fréquente en tant qu'avocat. Vous avez des agents qui ont la manie de torturer moralement les détenus et les prévenus, et ce que je vous dis, c'est vérifiable à l'instant, quelque part ici à Kinshasa, au centre judiciaire, il y a un cachot où lorsqu'on veut vous torturer, on va d'abord y mettre beaucoup d'urine pour vous mettre dans un conditionnement tel que vous puissiez demander à quitter ce lieu-là, moyennant ce que vous savez. Et cela s'est fait il y a 2-3 jours encore avec ces personnes. Là, on ne va pas dire que c'est la responsabilité du gouvernement passé. C'est vrai que nous avons de bons ministres qui font du bon travail. L'actuel ministre, le ministre Luzolo, nous avons un bon ministre, c'est d'ailleurs un membre de notre Institut des droits de l'homme, il est animateur. Le ministre précédent, le ministre Mutombo, c'est un excellent ministre, un excellent juriste. Mais il y a des problèmes qui demandent un minimum de volonté politique, notamment cette gestion du personnel carcéral. Avec un minimum de volonté, on peut voir au moins qu'on va de l'avant. Et ce n'est pas en faisant de beaux discours, ni à tout le temps en se réfugiant derrière le passé, en invoquant de façon toujours un peu le grand problème des membres du gouvernement, c'est de se retrouver à tout moment en campagne électorale, on parle de 5 chantiers. Mais voilà au moins un chantier qui était facile, où tout le monde est d'accord qu'il y a un problème qui ne va pas, où tout le monde est intéressé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, ce que je vous dis n'est pas une anecdote. Dans les cachots, il manque notamment des lieux d'aisance. Et lorsqu'à l'entrée du musée, lorsqu'on avait arrêté beaucoup de personnalités, il y a une personnalité, l'ancien ministre de la Justice, qui demandait est-ce que je parlais dans les lieux d'aisance. On dit, mais vous étiez là pendant longtemps, vous n'avez jamais conçu des lieux d'aisance, il n'y en a pas. Allez dans la bourse à côté, c'est connu de tout le monde. On en parle, c'est une anecdote, mais rien ne change. Et c'est là où nous disons que quelque part, un jour comme aujourd'hui, tout le monde devait au moins se dresser, finir les discours, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement, améliorer les cachots, et mettre fin à la corruption, la petite corruption, on met les détenus dans des conditions telles que vous êtes obligé de débourser pour que vous dormiez dans des conditions normales. Tout ça, c'est ça qui fait que le tableau des droits humains dans notre pays est noirci. Et ce ne sont pas des problèmes pour lesquels on a besoin de demander une coopération internationale.
Voilà.
Ce sont des problèmes qu'on peut régler au quotidien,
voilà,
avec un geste. Et c'est donc qu'il y a une volonté politique qu'il faut imprimer. Et nous avons pour ça des ministres compétents.
Oui.
Nous avons des magistrats capables.
Oui.
Mais il faut une volonté politique pour mettre fin à cela.
Voilà. Mais, monsieur le ministre, vous avez suivi Maître Jean-Joseph Mukendi qui revient sur les conditions dans les prisons. Pour lui, il y a un problème, il y a une volonté politique qui doit s'appliquer et qui doit se manifester avec l'absence de lieux d'aisance. La situation est pareille, hein, que ce soit en province orientale ou à Bandundouville, la situation est pareille. Qu'est-ce que vous répondez, M. le ministre Lambert Mende?
Oui, je crois que c'est vous-même qui avez signalé ici une initiative à partir du reste à l'époque de l'ancien ministre, aujourd'hui vice-premier ministre, notre Mouton Mbaka Fassenda, qui a essayé de se préoccuper des conditions carcérales, non seulement ici à Kinshasa, mais même dans certaines prisons de l'intérieur. Il est allé jusqu'à Lubumbashi, si mes souvenirs sont exacts, et il a visité ces prisons, il a fait partir de la prison ceux qui ne devaient pas normalement s'y trouver. Donc il y a une volonté politique, personne n'avait de s'être élevé contre cette initiative de mettre Mutombo au gouvernement, bien au contraire, il a reçu l'appui de tous les exécutifs. Et ma foi, les actes que pose son successeur aujourd'hui depuis qu'il a repris les rênes de ce ministère sont également prometteurs. Il a annoncé une vaste campagne qui a commencé effectivement d'assainissement à ce niveau. Mais lorsque on épingle des aspects comme l'insuffisance de latrine, etc., je reviens encore à mon constat, c'est une situation qui est générale. Il manque de latrine dans les prisons, il en manque même dans les écoles, hein, les écoles primaires, nos enfants, lorsqu'ils vont étudier. Il en manque dans nos hôpitaux, lorsque nous-mêmes nous nous trouvons en situation d'aller dans des établissements hospitaliers, surtout publics, il y a un problème sérieux. Et donc, les cinq pompiers, ce n'est pas une figure d'esquive, ce n'est pas de la propagande. C'est une idée qui a été lancée, la propagande, c'est pendant les enjeux électoraux. Nous sommes maintenant en pleine mandature. Et donc, on parle de cinq chantiers. Il y a aussi les infrastructures, c'est-à-dire les services pénitentiaires. Comment nous logeons ceux d'entre nous qui, se trouvant en espèce avec la loi, sont hébergés par nous, par l'État.
Oui.
Et donc, nous parlons de latrines. Je pense que dans sa présentation du budget, notre premier ministre, Mouzito, avait présenté à l'Assemblée nationale parfois même des détails. On vous dit autant de milliers de latrines dans telle province, etc. Bon, bien sûr, on n'a pas fait le dispatching pour dire combien dans les marchés, combien dans les écoles, combien dans les établissements pénitentiaires, mais tout ça est pris en compte.
Mmh.
Donc, c'est le fait également que le pays est tellement vaste, les défis sont immenses, les moyens sont si réduits, par palier, ça peut susciter un peu des réactions d'impatience ici et là.
Il faut peut-être s'organiser aussi, hein, monsieur le ministre, pour s'attaquer quand même au plus pressé, parce que les gens continuent à souffrir. Vous avez suivi le cas évoqué par maître Mukendi, des gens qui doivent baigner dans l'urine. Je vais revenir à vous.
Alors là, nous devons effectivement apprécier que de telles informations nous parviennent à qui de droit, pour que seulement en cas de non-réaction ou de timidité dans la réaction des technostructures gouvernementales qui sont chargées de s'occuper de tels cas, qu'on puisse effectivement dire qu'il y a mauvaise foi ou absence de volonté politique.
Oui,
ce que l'avocat maître Mukendi a pu savoir, peut-être que le ministre dans son bureau ne l'a pas su, ce que l'activiste qu'il est des droits de l'homme a pu savoir, peut-être que le procureur ne l'a pas su, donc il faut effectivement cette synergie entre les différentes catégories qui s'occupent de ces questions.
Oui, monsieur le ministre, je vais revenir à vous, parce que c'est vous qui représentez le gouvernement dans ce débat, parce que maître Mukendi a encore soulevé la question de torture. Maître Jean-Claude Katende, avocat au barreau de Lubumbashi et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, il y a Human Rights Watch, une ONG, je suppose, votre partenaire, a décrit un tableau sombre des droits de l'homme en RDC, avec notamment l'arrestation ciblée des opposants, particulièrement ceux présumés proches du MLC ou encore originaires de l'Équateur, des cachots souterrains avec des traitements inhumains, notamment la matraque électrique, que les services spéciaux introduiraient dans l'anus, excusez-moi, voire le sexe masculin des tenanciers de ces cachots dans la bouche de certains détenus. Est-ce que vous confirmez toutes ces informations, Jean-Claude Katende?
Oui, je pense que ces informations sont exactes. Et ces informations relatent en fait la réalité de la situation des droits de l'homme, non seulement à Kinshasa et au Bas-Congo, les deux provinces qui sont principalement concernées par le rapport, mais aussi dans l'ensemble de tout notre pays. Je confirme donc les informations qui sont contenues dans ce rapport, et je pense que ce que le gouvernement doit faire, malgré qu'il y a eu le rejet total du rapport par certains ministres, c'est de vérifier et de produire un autre rapport qui puisse démontrer que ce que Human Rights Watch a publié est faux.
Voilà. Monsieur le ministre Lambert Mende, peut-être que Jean-Claude Katende a voulu parler un peu de vous. Vous êtes parmi les ministres qui ont rejeté justement ce rapport de Human Rights Watch. On a suivi tout à l'heure, c'était le ministre des Droits Humains, Oupio Kakoura, qui revenait justement sur ce rapport. Il a dit que le gouvernement congolais est en train de vérifier ces allégations. Monsieur le ministre, est-ce que vous le confirmez aussi?
Oui, c'est exact. Tout d'abord, lorsque nous rejetons ce rapport, il ne s'agit pas de certains ministres. Tout le gouvernement rejette ce rapport.
Parce qu'il est
nous sommes solidaires et nous avons nos raisons. Et c'est vrai que le conseil de maître Katende mérite d'être suivi, et nous avons déjà, comme anticipant sur sa pensée, pris cette option. Dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, le gouvernement publiera un document qui indique pourquoi il a rejeté ce rapport. Ce rapport a été trop politiquement orienté. Il y a certainement des faits qui sont vrais dans ce que le rapport dit, mais il y a une volonté systématique, constante, délibérée, d'exagérer des choses. Je donne un seul exemple en passant. Dans ce rapport, vous trouvez dans une même page où on vous dit que à telle date, c'est des dates où il y a eu la guerre ici à Kinshasa, entre la garde de l'ex-président Bemba et les forces armées. Et on vous dit, tel jour, des militaires de la garde présidentielle sont entrés chez tel monsieur sans mandat. Et ils sont allés, ils ont pris des objets, ils ont perquisitionné. Et dans un autre paragraphe, on vous dit que ce jour-là, il y avait une guerre, et que dans ce quartier-là, dans cette maison-là, où ils venaient de dire que militaires sont entrés sans mandat, il y avait d'autres militaires qui tiraient sur eux. Alors, la question est, où est l'intérêt, disons-le comme ça un fait, des militaires qui entrent dans une parcelle, sans mandat, donc faire croire qu'on est dans une situation tout à fait normale, alors qu'en réalité, il s'agit d'une situation de guerre, où des militaires se tirent les uns sur les autres à armes lourdes, et est-ce qu'on peut me dire,
quelle situation, dans quel pays, pendant la guerre, on va dire à un militaire d'avoir un mandat avant de poursuivre celui qui tire sur lui à partir d'une cartouche. Donc vous voyez, de telles petites ficelles, nous avons trouvé ça assez questionnable de la part d'une grande ONG, que nous avions d'ailleurs appris à respecter, comme Human Rights Watch, et finalement on a compris le fin mot, on voulait un rapporteur spécial pour les droits de l'homme au Congo, qui avait été supprimé, et pour cela il fallait noircir. Je dis, nous avons suffisamment de problèmes ici pour chercher à les noircir pour des raisons aussi peu défendables, à mon avis.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. On va poursuivre cette émission. La communauté nationale et internationale des défenseurs de droits humains reste, elle, préoccupée par la dégradation continue des droits de l'homme en RDC. Pour le président de la Voix des Sans Voix, la VSV, cette dégradation est due à la mauvaise gouvernance au niveau de l'État. On écoute Floribert Chebeya, président de la VSV, au micro de Magali Kabale.
Les défenseurs des droits humains notent avec inquiétude qu'il y a un recul. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de se désengager par rapport, en fait, à ses obligations nationales et internationales en matière des droits humains, notamment avec la politique de suppression de tous les mécanismes de surveillance, que ce soit au niveau des Nations Unies, la suppression de l'expert, mandat de l'expert indépendant, également une coopération timide, si pas insuffisante, avec la Commission africaine des droits de l'homme qui n'arrive toujours pas à examiner les rapports périodiques sur la situation des droits de l'homme en République et démocratique du Congo. Il faudrait qu'on puisse quitter les slogans et l'expression des promesses et de bonnes volontés et qu'on puisse plutôt avoir une volonté réelle pour réaliser les droits humains. Ça passe par une bonne collaboration avec tous les acteurs et actrices internes et externes, notamment les ONG, et ça passe également surtout par la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo.
Voilà, lutte contre l'impunité, ça c'était Chebeya. Jean-Claude Katende, vous êtes de Azado, vous appuyez votre collègue Chebeya sur ce point?
Je partage parfaitement le point de vue de mon collègue Floribert Chebeya. Je pense que quand nous comparons la situation actuelle des droits de l'homme en République démocratique du Congo par rapport à la situation passée, il y a un grand recul. C'est l'une des questions qui a préoccupé notre organisation ces derniers mois, c'est celle que vous avez soulevée, mais sur laquelle on n'a pas mis beaucoup d'accent, concernant l'arrestation des militaires, des policiers, des délégateurs. Vous avez ces militaires et policiers qui sont à la prison et qui n'ont jamais été présentés devant leur juge. Et ça, ce sont des personnes qu'on a arrêtées sur base principalement des soupçons et on leur donne pas la possibilité de s'exprimer, de se défendre devant un juge et qu'ils m'invitent dans la prison de Kinshasa. Vous voyez, de telles choses, on les a pas connues il y a quelques années.
Merci beaucoup Jean-Claude Patindé. Il y a des réactions de nos auditeurs. Robert Béabo d'ici en province orientale, lui, il estime que pour faire respecter les droits de l'homme en RDC, le gouvernement doit résolument réhabiliter l'appareil judiciaire. Gaspard Moudé-Kériza de Bukavu Sud-Kivu estime que beaucoup de Congolais ne connaissent pas leurs droits parce qu'ils ne sont pas assez vulgarisés. C'est pourquoi certaines personnes en profitent pour léser les autres. Enfin, pour cette série, Robert Ndundu de Kananga au Kassai Occidental dit avoir lu beaucoup de rapports sur les droits de l'homme publiés par la MONUC et d'autres ONG spécialisées. Qu'a fait l'État congolais aux auteurs des violations des droits de l'homme RDC? C'est sa question. Maître Jean-Joseph Mukeli.
Mais je crois que je réagis favorablement à l'observation faite par M. Moudé Kereza. Il y a un grand problème chez nous, c'est la conscience des personnes sur leurs droits humains. Dans des conférences, parfois, j'attire l'attention des Congolaises et des Congolais sur le fait que nous avons tendance à nous connaissons maintenant un phénomène d'accoutumance aux violations des droits humains. Et là, c'est très dangereux. C'est devenu presque normal. Lorsqu'on vous arrête, vous donnez de l'argent, vous ne dénoncez pas et tout. Et je crois que c'est là où je salue un peu le ministre Mende quand il dit, vous avez des informations, donnez-les aux responsables. Là, je le lui concède. Mais le grand problème, de façon générale, nous, les Congolais et les Congolaises en général, nous n'avons pas suffisamment la conscience de nos droits. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de notre faute. parce que la Constitution donne fait obligation au gouvernement de pouvoir promouvoir les droits humains et d'en faire un enseignement. Mais nous voyons très peu d'activités dans ce domaine. Je crois qu'un jour comme aujourd'hui, il faudrait interpeller aussi les autorités en charge des droits humains de pouvoir prendre plus d'initiatives pour enseigner les droits humains. Et c'est une tâche qui est très importante. Même dans le cas quand nous parlons du dysfonctionnement de la justice. Mais c'est parce que parfois des magistrats, à des points, et des agents de l'ordre, n'ont pas les instruments de leur action. Nous parlons des instruments nationaux. Ne parlons même pas encore des instruments internationaux dont ils ne disposent même pas du tout et ils ne sont pas conscients. Donc il y a un grand problème dans notre pays. La prise de conscience par la population congolaise de ce droit, ainsi que la vulgarisation, l'enseignement des droits humains, c'est un exercice qui devrait être entrepris et pour cela, il faut que le gouvernement le fasse. Malheureusement, jusqu'à présent, nous attendons que cela se fasse par des ONG étrangères. Mais vous savez, les étrangers, ils ont une limite. Ils financent quand ça va dans le sens de leur intérêt. Quand ce n'est plus nécessaire, ils vont financer autre chose. Et souvent, on considère ce domaine comme un domaine qui n'est pas générateur de revenus. Et ça nous pose un problème. Mais notre gouvernement devrait être beaucoup plus consciencieux sur ce problème-là, puisque c'est la Constitution qui l'invite.
Oui, on a entendu, hein, Monsieur le ministre Lambert Mende appuyer la déclaration du ministre des Droits humains, comme quoi le gouvernement est en pleine enquête, Monsieur le ministre. Est-ce que c'est cela?
C'est exactement cela. Je voudrais réagir à deux ou trois choses qui ont été dites là.
Oui.
Je pense que lorsque responsable de ONG le droit de l'homme insiste pour que le gouvernement laisse agir pratiquement à leur guise ce qu'il appelle des experts indépendants, s'il fait allusion à ces experts étrangers que parfois le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme voulait imposer dans le pays, je m'étonne un peu parce que moi, je ne mets aucun doute quant à l'expertise et à l'indépendance des ONG congolaises. Alors pourquoi cette espèce de tutelle des ONG étrangères sur eux? Pourquoi ils appellent cela? Moi, je pense qu'ils pourraient eux-mêmes, ONG congolaises des droits de l'homme, faire des choses utiles pour leur peuple ici.
C'est peut-être plus facile, Monsieur le ministre, pour les ONG internationales que les ONG locales, vous savez.
Mais pas du tout.
Monsieur le ministre,
je
vous
pense
le savez.
Qu'il y a des ONG nationales qui font, et qui sont d'ailleurs mieux outillées, Maître Mukendi vient de le dire. Il faut que nous-mêmes nous assumions notre destin, défendre les droits de l'homme au Congo, ça doit d'abord être l'affaire des activistes congolais. Et donc, il ne faut pas démissionner comme ça, dire que les étrangers ont plus facile que nous. C'est un combat. Alors ensuite, il a été dit, je pense ici, que il y a une détérioration. Aujourd'hui, c'est pire qu'hier. Sincèrement, moi, j'ai l'âge que j'ai. Je suis passé partout, hein, la Deuxième République, et puis aujourd'hui, honnêtement, sincèrement, quels que soient les sentiments qu'on peut avoir, on ne peut pas honnêtement faire croire à un Congolais que les droits de l'homme, c'est pire aujourd'hui qu'hier. Sincèrement, je sais que nous n'avons pas encore atteint le paradis. Dire vraiment que c'est pire aujourd'hui qu'hier, c'est sincèrement solliciter les faits. Je pense qu'il a... D'abord hier...
C'est pas ça de ton gouvernement,
comme ça, à la radio, et demain, vous vous promenez librement. Je pense qu'il y a une évolution. Il faut dire que c'est pas assez, mais dire que c'est pire qu'hier, ce n'est pas correct. Et enfin... La troisième observation, c'est par rapport à nos compatriotes militaires de la province d'Équateur qui seraient arrêtés. Là, je dis, il faut qu'on arrête de politiser, d'ethniciser, de régionaliser les événements qui se passent avec la justice. Nous ne pouvons pas conditionner nos OPJ, nos magistrats, pour que chaque fois qu'ils ont affaire à un justiciable, que le premier réflexe soit de demander, vous êtes de quelle région? Ah, je suis de la région des leaders de l'opposition ou de la majorité, et on les traite en conséquence. Non, on dit la justice est aveugle. Je pense qu'il est important que nous nous intéressions aux faits qui justifient ou ne justifient pas une arrestation. À la conformité de l'acte posé par le magistrat, le policier ou le militaire par rapport à la loi, plus que à la région d'origine. Je pense que nous risquons de créer une situation pire que ce que nous dénonçons. Nous devons ethniciser les décisions de justice.
Monsieur le ministre, évidemment, on attendra les résultats de l'enquête du gouvernement, peut-être pour vérifier tout cela.
Début janvier, il sera là.
Oh, voilà. Oui, maître Jean-Joseph Foucault.
Je voudrais justement un peu réagir un peu à cette bonne intervention de Son Excellence le ministre Mende. D'abord, il est important que tout gouvernement puisse se pencher sur une enquête qui concerne un sujet aussi sensible que les droits de l'homme.
Essayez d'y aller très rapidement parce que
justement, très rapidement, mais justement, le drame, c'est de ce réflexe d'autodéfense, de considérer que c'est mauvais, alors que les problèmes sont très importants. Mais en ce qui concerne les activistes congolais, c'est vrai qu'il y a des activistes congolais, c'est important. Mais M. le ministre n'ignore pas lui-même qu'il y avait aussi un peu d'Haïti dans les tranchées avec nous il y a quelque temps. Il n'ignore pas un peu la réalité du terrain ici, parce que le Congolais est beaucoup plus exposé. Et cela n'est pas le cas seulement des activistes des droits des
journalistes
à prison. Il y a des personnalités politiques. Il y a Jean-Pierre Dikoma en Mbujimayi. Depuis 5 mois, il est en prison. Et vous savez, pour un problème bénin, parce qu'on prétendait qu'ils jetaient des pierres au gouverneur. Donc c'est pour dire que les activistes, les journalistes congolais sont plus exposés. Et enfin... Le problème de l'état général des droits humains, je pense que nous devons être solidaires. Un jour comme celui-ci, ce n'est pas bon de dire que la situation s'est améliorée. Voyons les droits économiques et sociaux. Maintenant, la situation des fonctionnaires, on peut dire qu'elle est meilleure que du temps de Mobutu.
Cela fait partie des droits
d'homme. Cela fait partie des droits d'homme. Dans notre constitution, on parle des droits socio-économiques.
Merci beaucoup.
Donc, quand on apprécie tout ça, de façon générale, on peut dire que la situation des droits de l'homme, elle est très mauvaise, et elle est pire même que du temps du régime Mobutu.
Merci beaucoup, Maître Mukendi. Vous avez une minute, Katende et Jean-Claude.
Ah, je vous remercie, Monsieur Claude, mais je pense que si je dois dire un dernier mot, c'est celui de revenir sur la sécurité ou la sécurisation des défenseurs des droits de l'homme dans notre pays. C'est vrai que le ministre a souligné le fait que nous avons des défenseurs des droits de l'homme compétents qui doivent s'occuper de la situation des droits de l'homme dans notre pays, mais je pense que nous ne devons pas oublier l'insécurité qui caractérise le travail que nous sommes en train de faire dans ce pays ici. Cette insécurité ne concerne pas seulement les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, mais aussi des journalistes. Il y a des défenseurs qu'on arrête, il y a des journalistes qu'on tue. À cette occasion, je pense qu'il revient au gouvernement de rassurer et d'assurer la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme pour permettre que l'année prochaine, quand nous allons encore célébrer le 61e anniversaire
de la
Déclaration des droits de l'homme, qu'on puisse vraiment parler de la situation d'une manière positive en fait, qui concerne les droits de l'homme dans notre pays.
Merci beaucoup. On va prendre la dernière série des réactions avec Kevin. Pardon, j'avais dit Kevin Koutemetitim Koutou, voilà.
Oui, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Emmanuel Boukali de Bénior Kivu pense que l'État congolais doit avoir des juridictions qui répriment sans partialité les auteurs de traitements inhumains, dégradants et cruels. Joseph Lukanda de Mbujimayi au Kasaï oriental pense que la guerre à l'Est et la dictature ont éloigné de la RDC le respect des droits de l'homme. Enfin, pour David Bwanga de Manono Katanga, tant qu'il y a l'impunité, la promotion des droits de l'homme n'a pas sa place en RDC.
Voilà, monsieur le ministre, tout le monde revient sur l'impunité, les auteurs de ces traitements dégradants. Je ne sais pas si là, au moins, vous pouvez rassurer les Congolais qui vous suivent.
Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui mettent un doigt sur l'impunité comme une des causes de tous ces problèmes, tous ces fléaux que nous sommes en train de déplorer. Mais j'aimerais chaque fois que nous parlons des cas que nous devons épingler comme illustrant justement ces situations, qu'il y ait des cas concrets au lieu de parler de généralité. Je sais que dans les professionnels des médias, on a enregistré effectivement une sorte d'hécatombe ces dernières années, mais on ne peut pas dire que lorsqu'il y a un crime vraiment crapuleux qui coûte la vie à un journaliste, que ce soit une répression politique. Je sais que l'État est responsable du fait qu'il n'a peut-être pas fourni assez d'efforts pour protéger cette vie congolaise qui a été prise par des bandits, mais on ne peut pas exciper du fait qu'un journaliste a été tué, que c'est l'État qui a voulu le faire taire. Il se peut
que
un bandit ait assassiné un journaliste pour le voler, mais pour le cas des défenseurs des droits de
l'homme,
on est d'accord que chaque fois que des cas comme ça surviennent, que les responsables, comme l'a dit Maître
Mukendi pour gérer cette situation, soit effectivement sensibiliser pour qu'il puisse intervenir.
Il n'y a pas de monde.
En ce qui concerne les défenseurs des droits de l'homme, moi, peut-être que c'est parce que je travaille avec les médias, et ça serait intéressant qu'on puisse nous lister ces cas sur lesquels le gouvernement doit s'occuper.
Oui, bien sûr, il n'y a pas que de monde, monsieur le ministre. Il y a des menaces, il y a des descentes punitives, et vous le savez, on espère.
Il faut qu'on le sache. Il faut que nous le sachions.
Oui, ragasse, vous devez le savoir. Monsieur le ministre, en fait, on est pratiquement à la fin, mais on aura, j'espère, l'occasion d'y revenir. C'est la fin de cette émission. Willem Lungamba était à la technique, Claude Kianza à la réalisation, avec le concours de Titine Poutou, Pierrot la musique, et écouté Guy Maté, sans oublier Magali Kabalé, notre stagiaire. Merci à tous de nous avoir suivis.
Oh, Kathy.